Bonjour mes frères et bonjour mes sœurs. Que la paix de Dieu, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et que la communion de son Saint-Esprit ce matin soit le partage de nous tous. Alors nous allons ouvrir nos Bibles ce matin, mes bien-aimés. Et pendant quelques minutes, le temps de la méditation de la parole de Dieu, nous allons voir dans quel pâturage céleste le Saint-Esprit ce matin va nous conduire. Et je dois vous dire, vous qui êtes le peuple de Dieu, qui avez la connaissance, à vous qui êtes au rang de ceux dont le Saint-Esprit fait mention lorsque, de manière similaire, il s'adresse au travers d'une lettre envoyée par l'apôtre Paul à l'église des Thessaloniciens, l'apôtre va mentionner quelque chose qui était pour lui un vécu. Il dit aux Thessaloniciens qu'il rendait grâce pour eux. Il rendait grâce à Dieu pour eux et il rajoutait « Et je ne cesse de faire mention de vous dans mes prières. » Pourquoi? Parce que il avait compris par rapport à ce qui se vivait dans l'Église, il y avait d'abord le témoignage de leur foi. Avec le témoignage de leur foi, il parlera aussi de la fermeté de leur espérance. Et il mentionnera au travers de ces critères précités quelque chose qui découlait de ce qu'il venait de mentionner. Il dira, nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Et ce matin, frères et sœurs en Christ, nous tous qui sommes là présents, qui avons part à la grâce de Dieu, nous tous en qui Dieu a fait habiter le Saint-Esprit, nous tous qui, jour après jour, instant après instant, étant placés sur le chemin de la persévérance, continuons à combattre pour la foi de l'Évangile de Jésus-Christ. Nous qui sommes confrontés à diverses épreuves, plus ou moins difficiles les unes que les autres, mais qui malgré tout, nous tenons le coup. Et si nous tenons le coup, ce n'est pas par notre capacité, ce n'est pas par nos forces. L'apôtre dira, notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Lui qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage avec les saints dans la lumière, nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et c'est pourquoi jour après jour, mes bien-aimés, Dieu nous conduit à continuer à avancer sur le chemin de la persévérance. Alors le partage de ce matin, pour y entrer, je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles, cela va de soi. Et nous allons regarder un texte dans le livre du prophète Zacharie. Pour ceux qui s'en souviennent, lors du dernier partage où j'étais le prédicateur, le responsable, dimanche dernier, c'est le pasteur Moïse Arou qui nous a donné le message de la parole de Dieu. Et le dimanche précédent, nous avons vu au travers d'un texte biblique, comment Dieu nous rappelle qu'il nous donne tout pleinement en Jésus-Christ. Puis, les dimanches précédents, nous avons vu comment la grâce de Dieu s'était manifestée dans la vie d'un homme impotent, avec une grande infirmité, dont le nom est Mephibosheth. Et comment, dans une circonstance particulière où le royaume de David est en repos, autant en repos mais aussi en pleine extension, Dieu lui donne la victoire sur ses ennemis. Et malgré tout, voici que le roi a une préoccupation, et cette préoccupation l'amène à cette déclaration, « Reste-t-il quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan. » Gloire à Dieu. Et vous remarquerez que dans l'énoncé du verset, c'est faire du bien, mais à cause d'un autre. C'est exactement la grâce de Dieu quand elle se manifeste. Et puis nous voyons comment cet homme, Mephibosheth, d'abord le roi va l'envoyer chercher. Puis, lorsqu'il est devant le roi, il ne va pas se mettre à dire « Alléluia !» Mais il va dire à David « Mais qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi ?» J'avais dit que quand vous êtes objet de la grâce de Dieu à ce niveau, rapidement vous reconnaissez qu'en vous, il n'y a rien de bon. Mais c'est justement ce que Dieu attend. Et lorsqu'il fait cette déclaration, c'est là que le roi lui dit « Je vais te donner toutes les terres de ton père, etc. » Et voici que celui qui habitait dans la maison de Makir à Lobéda va maintenant déménager. Il va déménager pour pouvoir venir habiter à Jérusalem, c'est-à-dire pas très loin de la maison du roi, de la cité de David, la cité de Sion où David avait sa résidence. Et puis la Bible nous dit que et Mephibosheth mangeait tous les jours à la table du roi comme l'un de ses fils. Alléluia. C'est ça la grâce de Dieu. Et le récit, après avoir considéré d'autres points, le récit se termine ainsi. Et il était boiteux des deux pieds. Il avait dit que malgré l'infirmité qui était dans sa chair, ça n'a pas empêché que le roi lui témoigne de l'intérêt. Ce matin, mon frère, ma sœur, objet de la grâce de Dieu, celui qui t'a témoigné de l'intérêt quand tu as cru pour le salut, quand tu t'es repenti de tes péchés, quand tu t'es converti à Dieu en abandonnant les idoles faites de main d'homme et qui t'a placé sur le chemin de la persévérance, qui a fait habiter en toi le Saint-Esprit, il continue à te témoigner autant d'intérêt que lorsque tu as cru pour le salut. Et ce, même si tu as toujours des infirmités dans ta vieille nature, parce que ce n'est pas la peine que tu t'illusionnes. Dans ta vieille nature, tu auras toujours des tares. Non, vous n'êtes pas convaincu? Bien sûr. Car si vous ne voulez pas le reconnaître, la vieille nature va se charger elle-même de vous le faire reconnaître. Mais béni soit Dieu, c'est ça. Sinon, n'est pas là matin, midi et soir pour me faire des litanies et des leçons sans fin. Mais quand je comprends qui est Jésus de Nazareth, on va le voir tout à l'heure, lorsque comme Saul de Tarse, malgré ce à quoi je suis confronté, je lui adresse ma prière avec un désir de changement d'une situation qui me crée quelques désagréments et qui pourrait même se retrouver préjudiciable pour ma marche chrétienne, ma vie en Christ. Alors, la réponse m'est adressée, Claude, ma grâce te suffit, parce que ma force s'accomplit dans la faiblesse. Et cette déclaration, je suis persuadé, a été certainement reçue par celui à qui elle a été donnée, mais non seulement reçu, mais c'est devenu pour lui une règle de vie, parce qu'il savait, comme il le déclara plus tard, et on va le voir dans l'Écriture, quand je suis faible, c'est alors que je suis faible, fort. C'est-à-dire, Dieu veut me faire comprendre ce matin, Claude, que tes aptitudes humaines ne soient pas un obstacle pour toi, pour que Dieu puisse agir selon le dessein qui s'est fixé. Lisez l'Écriture avec moi. Zacharie, livre du prophète Zacharie. Ce qui est formidable, frères et sœurs, et vous comprendrez pourquoi j'aime Jésus, c'est que notre Seigneur n'est pas là matin, midi et soir, comme je viens de le dire, pour me faire des leçons sans fin. Vous savez ce qu'il fait ? Il m'enseigne. Jésus m'enseigne. Et lorsqu'il m'enseigne, il a une faculté et un moyen, comme un excellent pédagogue, de me faire comprendre ce que je dois comprendre. Il m'explique. Et dans l'explication qu'il me donne, les choses deviennent tellement simples que je peux les acquérir après les avoir compris, recevoir, garder, et après le Saint-Esprit arrive pour m'aider à pratiquer. Gloire à Dieu. Alors, livre du prophète Zacharie, le chapitre 4. Zacharie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Et nous allons commencer notre lecture à partir du verset 9. C'est cela, hein? Livre du prophète Zacharie. Et quand je dis Zacharie, je pense à une espèce de petit pain carré qu'on a aux Antilles. On l'appelle Zacharie. C'est pas le même, hein? Le Zacharie des Antilles, ça se mange avec ma bouche. Mais ce Zacharie-là, c'est mon âme. C'est mon âme qui va l'apprécier. Amen. Voilà. Alors, Zacharie, le chapitre 4, verset 9. Même verset 8. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèvent. Donc regardez bien, les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Pourquoi? Parce que ce monsieur Zorobabel était un gouverneur responsable politique. Mais tout en étant gouverneur de Juda, il était gouverné par l'Éternel. Amen. Vous savez, quand Dieu a sa main sur quelqu'un et que vous êtes utile pour son plan, on a coutume de dire, sur le plan humain, quand ça marche pour quelqu'un, tout ce qu'il touche, il le transforme en or. Mais là, ce n'est pas transformé en or. C'est que la main de l'Éternel était sur Zorobabel. Un peu comme ce qui s'est passé pour vous qui connaissez l'Écriture, dans un autre cas, c'est un monsieur qu'on appelait Néhémie. Néhémie qui est en déportation à Suse, ville étrangère, qui lorsqu'il apprend la situation du peuple de Dieu, les murailles de Jérusalem sont en ruine, les portes sont consumées par le feu, alors Néhémie se lève en déportation et il a à cœur, il a pris à cœur l'œuvre de Dieu. Et ce que nous lisons, ce n'est pas autant que lui a pris à cœur l'œuvre de Dieu, mais parce que Dieu avait résolu de l'utiliser comme un instrument. Et puis lorsqu'il arrive au pays, qu'il prend les choses en main, eh bien, des ennemis se dressent, Sambala, le Horonite, enfin, Geshem, l'Arabe, enfin, toute une liste d'ennemis qui vont se dresser pour pouvoir essayer, je dis bien essayer, de bloquer, d'arrêter l'avancée des travaux. Mais Néhémie aura cette confession, malgré l'hostilité, malgré l'opposition, il dit les travaux continuaient parce que la bonne main de mon Dieu était sur moi. Ce matin, mon frère, ma sœur, la bonne main de ton Dieu est sur toi. La bonne main de Jésus est sur l'Église. Alléluia. Donc voilà pourquoi, mes bien-aimés, malgré l'hostilité, malgré l'opposition, malgré les combats, malgré les épreuves, béni soit Dieu, l'Église avance. Gloire à Dieu. Alors continuons notre lecture. Donc, ces mains ont fondé, mais ces mains vont achever. Et comme résultat, le témoignage qui sera rendu, et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Gloire à Dieu. Alors, voici maintenant la suite. Et puis voici une déclaration qui accompagne ce que nous venons de lire. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. C'est-à-dire, derrière ce que nous venons de lire, Dieu nous enseignent nous amènent sur le terrain où nous sommes amenés à ne pas mépriser les faibles commencements. Pourquoi? Parce qu'avec Dieu, frères et sœurs en Christ, ça ne commence jamais toujours grand. Avec Dieu, ça ne commence jamais toujours grand. Des fois, c'est un faible commencement. Mais béni soit Dieu, un faible commencement dont Dieu est à l'origine est appelé à un développement conséquent jusqu'à ce que, comme le dit Salomon dans le livre des Proverbes, chapitre 4, verset 18, le sentier du juste, c'est comme la lumière resplendissante qui va croissant jusqu'à ce que le jour soit à son plein. Avec le Seigneur, ça commence toujours petit. Mais chemin faisant, ou progressivement, ce qui a commencé petit, Dieu l'élargit, et lorsque nous lisons l'expression « le jour soit à son plein », quand le jour est à son plein, le soleil est à son maximum, amen, c'est jusqu'à ce que le soleil de justice se lève, c'est-à-dire jusqu'à ce que le Seigneur Jésus retourne pour chercher ceux qui l'attendent pour leur salut. Gloire à Dieu. Et puis, mes bien-aimés, dans le même contexte, regarde avec moi une autre lecture dans 2 Samuel, chapitre 23, versets 2 à 5. Alors, 2 Samuel 23, versets 2 à 5. Et puis après, nous allons rentrer dans les profondeurs de la méditation pour pouvoir tirer des paramètres spirituels, ouvrir des tiroirs divins, prendre connaissance de ce qui était dans le tiroir et en s'en faisant chacun une application personnelle, tirer un bénéfice pour mon âme, la vie de ma foi, mon attachement à Jésus-Christ et à la parole de Dieu, que Dieu soit béni pour ce qu'il permet ce matin. Alléluia. Alors, regardez avec moi comment Samuel, dans le livre de Samuel, plutôt, il y a ces paroles qui sont en quelque sorte des paroles données sous une forme prophétique, où il est mentionné ceci, « L'Esprit de l'Éternel parle par moi. » Et sa parole est sur ma langue. Le Dieu d'Israël a parlé. Le rocher d'Israël m'a dit, celui qui règne parmi les hommes avec justice, notez bien, celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu, il est pareil à la lumière du matin quand le soleil brille. Et que la matinée est sans nuage. Ses rayons après la pluie font sortir de terre la verdure. N'est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu, puisqu'il a fait avec moi une alliance? Une alliance non pas temporelle, mais une alliance éternelle. Et puisque c'est Dieu qui en est à l'origine, la suite, disait la suite, en tout point bien réglé et offrant une pleine sécurité. Frères et sœurs en Christ, quand nous lisons ces paroles, savez-vous que nous sommes concernés dans la portée prophétique? Mais pour nous, elle a son accomplissement non pas en David, mais en Jésus-Christ. Voilà pourquoi ce matin, mon frère, réjouis-toi de la part de grâce que tu as dans l'œuvre de Dieu, la part de grâce que Dieu t'a départie. Et comme je vous ai dit, comme l'apôtre l'a déclaré aux Thessaloniciens, en rendant grâce à Dieu, nous savons, frères bien-aimés, que vous avez été élus, parce que non seulement nous sommes élus, objet de l'alliance de Dieu, gens de sa maison, mais nous avons surtout du prix à ses yeux. Alors nous allons maintenant regarder, frères et sœurs en Christ, comment dans la Bible des situations où, au départ, c'était des faibles commencements, des choses qui pourraient paraître insignifiante aux yeux de l'homme, ou quand l'homme le considère. Et dans ce cadre-là, j'ai trouvé deux références concernant un même homme. Et dans les deux fois, nous voyons une expression qui est mentionnée dans Exode 2, livre de l'Exode, chapitre 2, versets 11 et 12. Et si vous avez de la connaissance, si vous êtes invité à lire l'Exode, vous avez tout de suite compris, vous allez trouver celui dont le nom signifie celui qui a été sauvé des eaux. Je n'ai pas dit Moïse, j'ai dit celui qui a été sauvé des eaux. Mais si vous dites Moïse, vous êtes dans le vrai. Mais regardez avec moi ce que la Bible nous rapporte. Et je vous prie de noter d'emblée ce qui nous est rapporté dans le verset 11. Lisez. En ce temps-là, Moïse devenu, notez simplement cela. Vous marquez-le dans un petit coin de votre tête, dans votre cœur, dans votre esprit. Je répète, en ce temps-là, Moïse devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Frère de qui? Frère de Moïse. Hébreu comme Moïse. Alors, il regarda de côté et d'autre, autour de lui, devant, derrière. Et la Bible nous dit qu'il n'y avait, voyant qu'il n'y avait personne. La suite, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici deux Hébreux se querellaient. Ça se querellait beaucoup en ce moment, en ce temps-là, hein. Mais ce n'est pas autant le nombre de querelles qui est important, c'est la leçon qui va en sortir après que nous ayons considéré Moïse devenu grand et les conséquences qui ont découlé de cet état dont la Bible fait mention à partir du verset 11. Il sortit le jour suivant, et voici deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Et remarquez aussitôt après ce que la Bible nous dit, et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous ?» Première question. Deuxième question, « Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Pourtant, on l'a lu qu'il n'y avait personne. Hein. Il n'y avait personne. Il a regardé à droite et à gauche, il n'y avait personne. Mais quelquefois, frères et sœurs en Christ, c'est ce qui arrive quand notre regard de chair nous abuse. Alors, la Bible nous dit la suite. Moïse eut peur et dit certainement la chose est connu. Puis la suite du récit nous montre que verset 15, Pharaon a appris ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse, mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et se retira dans le pays de Madian. Et puis ce qui est important, il s'est retiré, il a pris la fuite, mais il s'est arrêté près d'un puits. Ah. Position stratégique.
parce qu'il ne s'est pas arrêté près d'un puits vide, mais il s'est arrêté près d'un puits où il y avait de l'eau. La suite du récit nous va nous montrer comment, eh bien, les filles vont venir puiser et il va prendre la défense des filles, il va même puiser de l'eau pour faire boire leur troupeau. Les filles vont rapporter à leur père l'attitude de Moïse et le père va dire « Ramenez-moi cet homme à la maison ». Il va même donner à Moïse l'une de ses filles nommée Séphora. Ça veut dire, frères et sœurs en Christ, quand je lis cela, Moïse devenu grand. Il était devenu grand. Mais, comme je vous ai dit, hein, quelquefois quand nous devenons grands, nous prenons dans l'importance, nous avons certaines compétences, et nous avons certaines aptitudes, mais il ne faut pas que nos aptitudes nous commettent, nous amènent à entrer dans un processus qui peut se retrouver préjudiciable pour le plan de Dieu pour nos vies. Il avait en lui l'amour pour son peuple. Ses frères hébreux, n'est-ce pas? Et voyons cela, il a pris la défense de l'hébreu. À droite, à gauche, il n'y a personne. Alors, ni vu, ni connu, pan! Et après, pan, dans le sable. Mais le lendemain, une autre querelle. Ce n'est pas un Égyptien avec un Hébreu, mais deux Hébreux entre eux. Alors, devenu grand, il estime qu'il peut être un élément de justice. Mais la justice, frères et sœurs en Christ, selon Dieu, agit toujours dans la vérité. Selon Dieu, la justice fonctionne toujours avec la vérité. Mais là, Moïse était en plein mensonge. La veille, il avait commis un meurtre. Il avait caché sa faute. L'effet de sa faute était caché. Il espérait que personne ne l'ait vu. Ni vu, ni connu. Mais tout à l'heure, le frère Gérard nous a rappelé que les yeux de l'Éternel sont sur les, mais il fait lever son soleil sur les justes, aussi sur les, comme sur les injustes. Sur les bons, mais aussi sur les méchants. Et c'est là, frères et sœurs, qu'est-ce que c'est intéressant. Il prend la fuite. Et cette fuite n'est pas autre chose que la manifestation de l'énergie de sa chair. Oh, ne laisse pas ta vieille nature, tes aptitudes humaines, soi-disant, être un obstacle à empêcher le plan de Dieu de s'accomplir pour ta vie. Parce que tôt ou tard, Dieu va triompher. Dieu va triompher. Il sait qui tu es. Vous permettez, s'il vous plaît? Vous permettez, s'il vous plaît? Quand le pasteur prêche, si on a des manifestations qu'on veut s'exprimer, il faut le faire de manière discrète et dans le cœur. Voilà. Donc, nous savons qu'une chose, c'est que quand Dieu poursuit un dessein, il ne faut pas que nos aptitudes humaines puissent constituer un obstacle au développement de son plan pour nos vies, car tôt ou tard, il est capable même d'utiliser nos erreurs pour glorifier son nom. Ça va toujours? Bien. Alors maintenant, voyons un autre aspect qui nous amène à ne pas mépriser les petits commencements. C'est le même Moïse, hein? Mais regardez le témoignage qui est rendu de lui. Hébreux 11, verset 23. Je vous avais dit de mettre dans un petit coin de votre esprit. Vous avez bien saisi ce que j'avais dit? J'avais dit quoi? Moïse devenu? Bien. Là maintenant, regardez avec moi. Hébreux 11. Verset 23. Le premier devenu grand nous a mis en évidence l'énergie de la chair, aptitudes humaines, manifestations charnelles.
C'est-à-dire un désir de faire l'œuvre de Dieu avant le temps. Et ce matin, le Saint-Esprit me faisait comprendre quelque chose qui est fondamental. Pour vous, mes frères, qui voulez servir le Seigneur, notez bien. Le Saint-Esprit me faisait comprendre quelque chose, Claude. Lorsqu'on a reçu quelque chose de Dieu, la première chose qu'on fait, c'est qu'on se tait. Comment ça? Oui! Quand vous avez reçu quelque chose de Dieu, la première chose que vous faites, on ferme la bouche, on se tait. Je sais que ce que je dis, ça ne va pas dans le sens de ce que certains considèrent. Mais moi, je vais vous donner un exemple. Pourquoi on se tait? Parce que je peux avoir reçu quelque chose de Dieu. Mais le temps de la réception de ce que Dieu me donne et le temps de la manifestation de ce que j'ai reçu, il peut avoir une distance, une dispensation. Car il y a à considérer le temps où Dieu donne ce qui est utile et le temps où il veut manifester lui-même ce qu'il a mis en vous. Vous avez compris le paradoxe? Vous n'êtes pas satisfait? Vous connaissez Jérémie le prophète. Il va recevoir un appel divin. Et dans cet appel divin, Dieu lui dit, Jérémie, avant que tu aies été formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sortes du sein maternel, je t'avais établi prophète des nations. Que tu bâtisses, que tu plantes et que tu ruines. Oh, Jérémie a dit, Éternel, alléluia, merci pour cette belle révélation. Non, je suis un enfant éternel. Je ne sais pas parler. Moïse avait dit, j'ai la langue embarrassée. Ésaïe, dans une vision divine, a dit, malheur à moi, je suis perdu. On ne se met pas toujours à crier sous les toits parce que Dieu vous a appelé, Dieu vous a donné quelque chose. Non, vous vous taisez et vous laissez Dieu travailler. L'exemple, c'est que lorsque le Seigneur m'a montré clairement qu'il m'appelait au ministère, j'aurais pu me précipiter vers M. Archange, pasteur Archange, ou frère Barma, pour dire, voilà pasteur, le Seigneur m'appelle. Non, j'ai dit, Seigneur, maintenant, à partir du moment où tu m'as confirmé mon appel, maintenant, Seigneur, je ferme ma bouche. Et c'est toi qui feras le travail. Il a tellement fait le travail que le résultat aujourd'hui, ça fait 31 ans que le pasteur Gentil est sur le terrain du ministère. Jamais je me suis permis d'aller trouver mes pères spirituels pour leur dire que j'avais reçu un appel. Non, j'ai fermé ma bouche et j'ai laissé Jésus faire. Bon, je sais que vous me direz, pasteur Gentil, mais c'est pas pareil pour tout le monde. Moi, je veux bien le croire. Mais je crois que c'est tellement mieux quand c'est Jésus qui fait les choses. Quand c'est lui qui dirige, qui gouverne, qui entreprend, qui montre et qui se manifeste. Alors là, on est en plein sur le terrain de la bénédiction. Hébreux 11 au verset 23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'il vit que l'enfant était... Ah, c'était pas autant une beauté physique, certes. Je crois que Moïse était un beau garçon, un beau bébé. Mais derrière ce mot beau que nous voyons là, ne voyez pas autant la beauté physique, mais voyez plutôt la grâce de Dieu qui rendait l'enfant beau. Alléluia. C'est la grâce de Dieu qui était déjà sur lui. La preuve, la grâce de Dieu se manifestant, tout un processus est dirigé par la main de Dieu pour que la maman maintenant le place dans un panier de joncs qui le mette sous la mer. Mais enfin, tout un processus jusqu'à ce que Moïse puisse être allaité par la fille de Pharaon. Donc, c'est la main de Dieu qui dirige tout ça. Regardez. Alors, on y va.
Et par ses parents, parce qu'il vit que l'enfant était beau et qui ne craignait pas l'ordre du roi. Verset 24. Nous retrouvons maintenant notre même partage que ce qui s'était passé dans l'Exode. Je vous avais bien dit de noter. Hein? Alors, verset 24. Lisez, c'est par la foi que Moïse a devenu grand. Ça veut dire qu'on peut être grand selon soi et laisser l'énergie de la chair nous amener à commettre un meurtre. Mais là, c'est un autre Moïse. Là, nous sommes sur le terrain du Moïse spirituel. Le Moïse gouverné par la main de Dieu, dirigé par le Saint-Esprit. Et regardez, mes bien-aimés, c'est important. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, il y a un verbe qui arrive tout de suite. Stop. Moïse, devenu grand, refusa. Il a refusé quoi? Il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Pourtant, à cette époque, eu égard à l'éducation qu'il avait reçue, eu égard à la famille où il avait été accueilli, eu égard à toute la technologie pour l'époque qui était très avancée dans laquelle Moïse avait été versé. Parce que n'oubliez pas que celui dont il est question, élevé comme fils de la fille de Pharaon, il était appelé lui-même à devenir un futur. Un futur? Avec tout ce que cela comporte, richesse, gloire, prestige, connaissance, honneur, etc. Mais devenu grand, éclairé spirituellement, il refuse les honneurs. Dans la vie chrétienne, il y a des moments où par la foi je dois refuser ce qui semblerait être un avantage dans un premier temps, mais qui à la longue ou par la suite pourrait se révéler être un piège pour mon âme. Le monde a ses valeurs. Et comme enfant de Dieu, il y a un qui gouverne le monde, qui sait bien ce à quoi tu étais attaché avant ta conversion. Et qui obligatoirement va utiliser ce à quoi tu étais attaché avant pour essayer de t'amener sur le même terrain où il va te tenter pour que tu retombes dans ce que tu as vomi. Moïse était devenu grand. Ce n'était plus la grandeur ni l'énergie de la chair physique. C'était une vie divine en lui. Il a refusé ce qui lui était tendu et proposé. Il n'avait pas d'effort à faire. Il n'avait qu'à dire oui à tout. Et s'il disait oui à tout, il avait tout. Mais tout en ayant tout dans le royaume de Pharaon, ça pourrait constituer un obstacle au plan de Dieu pour sa vie. Regardez la suite. Premier verbe, il a refusé par la foi. Verset 25. Après avoir refusé, nous savons pourquoi il a refusé. La Bible nous dit, il préféra. Il préféra quoi? Être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Refuser, mais pour préférer. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui se manifestait en lui, dans son cœur, qui ne dépendait plus de sa nature humaine.
Pourquoi? Parce que ce qui était de l'hébreu en lui, donc son origine, peuple de Dieu, gens de la maison de l'Éternel, dominait sur toute la gloire de l'Égypte. Eh bien, toi, tu n'es pas gens de la maison de Pharaon. Ce matin, tu es gens de la maison de Dieu. Et puisqu'il en est ainsi, le Saint-Esprit qui habite en toi te fait déjà entrevoir la valeur des choses d'en haut, qui ont ô combien plus d'importance aux yeux de Dieu que toutes les richesses du ci-bas. Refusez, mais pour préférer. Et un enfant de Dieu préfère toujours ce que Dieu préfère parce que le Saint-Esprit habite en lui. Regardez, l'énergie spirituelle, ce qu'il est capable de faire. Un premier verbe, refuser. Un deuxième, préférer ce que Dieu préfère. Et quand vous lisez préférer être maltraité, laissez-moi vous dire que s'il y avait un choix et que c'est ma nature humaine qui gouvernait, je mettrais de côté rapidement la maltraitance et je préférerais rapidement l'opulence. Même si c'est la chair. Donc, il y a deux façons de se comporter. Quand vous êtes spirituel, le Saint-Esprit vous amène à adhérer, à refuser pour préférer ce que Dieu préfère, ce que Dieu veut pour vous. Et vous n'avez pas de mal. Parce que ça ne vient pas de vous. Ça vient du Saint-Esprit en vous. Regardez le troisième verbe qui va accompagner l'attitude de Moïse et nous comprenons pourquoi. Verset 26. Après avoir refusé, après avoir été conduit à préférer, la Bible nous dit, verset 26, il regarda l'opprobre de Christ. Mais comment, à quel moment Moïse connaissait-il Christ? Mais c'est le Saint-Esprit qui fait le travail. Il regarda l'opprobre de Christ. Comme quoi? Comme une richesse. Une richesse qui l'amène à évaluer, une évaluation, quoi? Plus grande que tous les trésors qu'il avait, car il avait les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la récompense aux rémunérations. Alléluia. Et pourtant, en ce temps-là, frères et sœurs en Christ, laissez-moi vous dire que l'Égypte était le pays, l'un des pays les plus riches au monde, avec de l'or, de l'or, de l'or, de l'or, de l'or, de l'or, de l'or. Mais derrière tout cet or qui avait en Égypte, il y avait autant d'or que de sorcellerie, que de faux dieux, et que tout ce qui s'ensuit, que de mages de pharaon, etc. Donc Satan trouvait le plein moyen de développer son plan et son dessein. Et au sein de tout ça, un homme pour qui Dieu a un plan, un dessein, et que le temps venu, Moïse devenu grand, spirituel, devenu mature. C'est-à-dire le Saint-Esprit a fait un travail spirituel divin en lui qui lui donne une ossature, un fondement, un centre de gravité, mais tout ne vient pas à droite ou à gauche. Mais pour lui, tout venait. Alléluia. Ça venait d'en haut. Donc, il refusa, il préféra. Pourquoi? Parce qu'il regarda. Ça veut dire que, devenu mature, le Saint-Esprit lui avait donné un discernement approprié pour qu'il puisse maintenant arriver à ce que nous venons de lire précédemment. Car tu ne peux pas refuser, tu ne peux pas préférer si c'est l'énergie de ta chair qui te gouverne. Mais quels sont le Saint-Esprit? Alors, tu acquiers un certain niveau spirituel devenu grand. Et derrière ce mot « devenir grand », je voudrais vous amener sur un terrain absolument indispensable pour vous, que pour chacun d'entre nous, c'est l'expérience de la nouvelle naissance. Quand vous êtes né de nouveau et que le Saint-Esprit habite en vous, eh bien Dieu peut à ce moment-là vous amener sur le terrain divin spirituel. Et vous avez une attitude qui va à l'encontre de ce que la nature humaine exige, voudrait, de ce que même les hommes voudraient pour vous. Vous êtes capable de dire non. Dis non, stop. Vous allez dire, vous êtes appelé, comme on dit l'Écriture, comme le livre de Job nous le dit, à tes résolutions répondront le succès. Parce que qu'est-ce qu'en réalité une résolution? Qu'est-ce qu'une résolution? Dites-moi, expliquez-moi. N'est-ce pas une décision qui vient d'une autorité supérieure? Et l'autorité supérieure, ce n'est pas ta vieille nature qui te la donne, hein? C'est le Saint-Esprit en toi. Il prend de ce qui est de Jésus et il te le donne. Il a refusé. Par la foi. Il a préféré par la foi. Il a regardé spirituellement, regard spirituel. Et puis après, la Bible nous donne pourquoi il a regardé. Il a regardé l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur là, la récompense qui lui était réservée après qu'il eut servi au dessein de Dieu. Verset 27. C'est par la foi qu'il quitta. Oui, quand tu refuses, quand tu préfères, quand tu regardes, alors tu n'as pas de mal à quitter. Tu tournes le dos au péché, tu tournes le dos à ce que les hommes disent, tu tournes le dos à ce que la vieille nature voudrait t'amener, et tu dis maintenant, non, je suis Jésus. J'ai fait mon choix. Je marche avec Jésus, pas à pas sur les toits entiers. Je marche avec Jésus, ma main dans sa surmain. Et la suite, je ne connais pas. Mais ça ne fait rien. Je marche avec Jésus, pas à pas sur les trois sentiers. Alléluia. Je marche avec Jésus. Je ne suis pas parfait. Mais je fais mon choix. Il avait les yeux fixés sur la rémunération. Il quitta l'Égypte par la foi, sans être effrayé par la colère du roi. Un autre verbe arrive, il se montra. Et tu ne peux pas te montrer ferme si tu n'es pas fermé. Ben oui, écoutez, s'il se montre ferme, c'est parce qu'il était affermi. Excusez-moi, j'ai mal parlé. C'est parce que Dieu l'avait affirmé. Vous savez, quand Dieu prend une vie en main, certes, nous avons été affranchis quand nous avons cru pour le salut. Jésus nous a rappelé, si donc le Fils nous a affranchis, vous serez réellement libres. Mais après t'avoir affranchi, il va commencer à t'affermer. Et c'est lorsque tu es affermi, tu refuses. C'est lorsque tu as fermé, tu préfères. Lorsque tu as fermé, tu regardes. Tu as fermé, la colère du roi, les paroles des hommes ne te font ni chaud ni froid. Parce que tu sais en qui tu as cru. Tu sais qui tu sers. Et par conséquent, tu sais qui tu es. Oui, sans Christ, c'est ça, l'évangile de Jésus-Christ. C'est ça, servir le Seigneur. On ne sert pas le Seigneur avec la bouche ouverte et on attend que le beefsteak tombe du ciel. Non, il faut combattre. Quelquefois, il faut déployer une énergie spirituelle divine qui ne vient pas de nous. Dieu a dit, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par puissance, Mais ça, pas moi, c'est pas mon esprit, dit l'Éternel. Et ce matin, le Saint-Esprit, Dieu l'a fait habiter en toi. Et je comprends l'apôtre qui dit que si notre évangile est voilé, encore voilé, notre évangile est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Mais dans le même contexte, il dit, nous portons ce trésor. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Afin que non pas cette puissance, mais cette grande puissance soit attribuée non pas à nous. Ce n'est pas ta puissance, ce n'est pas ma puissance, mais c'est la puissance de Dieu. Allez, on conclut. Conclut parce que je ne veux pas que les yeux se ferment ce matin. Hein. Il faut laisser la parole de Dieu pénétrer le cœur. Hein. Allez. Dit pasteur gentil, vous parlez beaucoup. Est-il convenable de vous laisser partir en vacances? Oui, vous pouvez le penser, mais bon, il y a un temps pour tout. Et puis voilà, il se montra ferme. Et toujours le même discernement, comme voyant quoi? Notez bien, hein? Comme voyant non pas ce qui est invisible, mais comme voyant. Et celui qui est invisible, d'abord c'était Dieu, mais prophétiquement c'était Jésus. Mais oui, c'était Jésus qu'il entrevoyait dans tout ce qu'il vivait. Et quand tu entrevois Jésus, mon frère, ma soeur, tu es obligé de céder au terrain. Tu es obligé de lever ta tête. Mais tu es aussi conduit à suivre tes pieds des voies droites. Afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse et que tu puisses imiter par la foi ce qui, par la foi et la persévérance, ont hérité des promesses. Allez, que Dieu vous bénisse, prions le Seigneur. J'avais encore d'autres points à partager avec vous, mais le Saint-Esprit me conduit à ce que ce matin, cela soit suffisant pour notre âme. Donc, deux aspects devenus grands. La première fois, c'est la chair qui gouverne, avec des aptitudes humaines. Et lorsqu'on veut faire l'œuvre de Dieu, malgré qu'on a une vocation, on est décidé, mais on n'est pas dans le temps de Dieu. On est dans le plan de Dieu, mais on n'est pas dans le temps de Dieu. Donc, il y a le plan et le temps. Prions.